Le lendemain matin, Paul se trouvait assis dans le lit adossé à une pile d'oreillers, une tasse de café à la main et ne cessant de jeter des coups d'œil aux marques sur le montant de la porte, avec ce regard coupable d'un meurtrier qui vient de découvrir une tache de sang sur un vêtement dont il a négligé de se débarrasser. Annie entra soudain précipitamment dans la chambre, l'œil agrandi, exorbité. Elle tenait un chiffon à poussière dans une main et dans l'autre, Paul n'en crut pas ses yeux, une paire de menottes. C'est tout ce qu'il eut le temps de dire. Elle le saisit avec une vigueur qui trahissait sa panique et l'assit bien droit dans le lit. La douleur, pour la première fois depuis des jours, fulgura dans ses jambes et il cria. La tasse de café lui échappa des mains et alla se fracasser sur le sol. « On n'arrête pas de casser le matériel ici, » songea-t-il. Puis, elle a vu les marques, bien entendu, il y a probablement longtemps. C'était la seule façon dont il pouvait expliquer son bizarre comportement. Elle avait vu les marques, en fin de compte, et c'était là le commencement de quelques nouvelles et spectaculaires punitions. « La ferme, idiot !» siffla-t-elle, tandis qu'elle lui clouait les mains derrière le dos. Mais en même temps qu'il entendait le cliquetis des menottes qui se refermaient, lui parvint le bruit d'une voiture qui s'engageait dans l'allée de la ferme. Il ouvrit la bouche avec l'intention de parler ou peut-être de se remettre à crier, et elle lui fourra un chiffon dedans avant qu'il eût le temps de faire l'un ou l'autre. Il s'en dégageait un goût immonde de produits d'entretien ménager, éplise ou autre. « Et surtout pas un bruit, » dit-elle, penchée sur lui. Elle lui tenait la tête entre les mains. Des mèches de cheveux vinrent lui chatouiller le front. « Je vous avertis, Paul, si on entend le moindre bruit, ou même si moi j'entends quelque chose et pense que l'autre risque aussi d'avoir entendu, je le tuerai, ou les tuerai, vous après et moi. » Elle se redressa. Elle avait les yeux exorbités, le front en sueur, du jaune d'œuf au coin des lèvres. « N'oubliez pas Paul. » Il hochait la tête pour acquiescer, mais elle ne le vit pas. Elle était déjà partie. Une Chevrolet Bel Air, ancienne mais bien entretenue, venait de se garer derrière la Jeep d'Annie. Paul entendit une porte que l'on ouvrait et refermait bruyamment quelque part. Elle émit ce bizarre couinement interrogatif qu'il attribuait à celle du placard dans lequel elle rangeait ses vêtements pour l'intérieur. L'homme qui descendit de la Chevrolet était lui aussi d'un certain âge et bien conservé. Le type même du coloradien, si l'expression avait un sens, se dit Paul. Il avait l'air d'avoir 65 ans, mais pouvait aussi bien en compter 80. On l'imaginait volontiers comme le doyen des actionnaires d'un cabinet d'avocats ou le patriarche en semi-retraite d'une entreprise familiale de construction. Plus vraisemblablement, il était propriétaire de ranch ou agent immobilier. Il devait être républicain, mais du genre à ne jamais poser un autocollant sur ses pare-chocs ni à porter des chaussures italiennes à bout pointu. Sans doute avait-il quelques postes officiels en ville et était-il ici en visite officielle ? Car il n'y avait que pour raison officielle qu'un homme comme lui et une femme vivant aussi à l'écart que Annie Wilkes puissent se rencontrer. Paul aperçut cette dernière qui se hâtait dans l'allée, plus soucieuse de l'intercepter que d'aller courtoisement à sa rencontre. Voici que se produisait finalement quelque chose qui ressemblait beaucoup à ce qu'il avait imaginé récemment. Non pas un flic, mais un personnage représentant l'autorité. L'autorité était arrivée jusqu'à Annie, et cet événement concourait inévitablement à lui raccourcir la vie. « Pourquoi ne pas l'inviter à entrer, Annie ? » pensa-t-il avec un effort pour ne pas s'étouffer avec le chiffon à poussière. « Pourquoi ne pas l'inviter pour lui montrer votre oiseau africain ? » Pas de danger. Elle n'inviterait pas davantage l'homme d'affaires des Rocheuses qu'elle n'amènerait Paul à l'aéroport de Denver avec un billet de première classe pour New York dans la poche. Elle se mit à parler avant même d'être à sa hauteur. son haleine lui sortant de la bouche en bulles de bande dessinée qui n'aurait pas eu de légende. Il tendit une main élégamment gantée de noir. Elle y jeta un bref coup d'œil, plein de mépris, et se mit à agiter un doigt sous le nez de l'homme, tandis que de nouvelles bulles sans légende montaient de ses lèvres. Elle finit d'enfiler son parka et interrompit son geste du doigt pour remonter la fermeture à glissière. L'homme mit la main dans la poche de son manteau et en sortit un papier. Il le lui tendit presque comme s'il s'en excusait. Paul avait beau n'avoir aucun moyen de savoir de quoi il s'agissait exactement, il était sûr que Annie avait un adjectif pour le qualifier. Biscornouille, peut-être. Elle le précéda dans l'allée, toujours en parlant. Ils sortirent de son champ de vision, mais il apercevait toujours leurs ombres portées comme des papiers découpés sur la neige. Elle avait agi intentionnellement, comprit Paul, déprimé. Si lui ne pouvait les voir, Monsieur Rancho Grande n'aurait pas l'occasion de jeter un coup d'œil par la fenêtre de la chambre d'amis et de le voir, lui. Les ombres s'agitèrent pendant encore 5 minutes sur le talus enneigé de l'allée. À un moment donné, Paul entendit même la voix d'Annie, grossie par la colère, criant des menaces. À Paul, ces 5 minutes parurent sans fin. Il avait les épaules douloureuses, et il s'aperçut qu'il n'avait aucun moyen de changer de position pour se reposer. Après lui avoir passé les menottes, elle s'était arrangée pour les attacher au montant du lit. Mais le pire était le chiffon à poussière dans sa bouche. La puanteur du produit nettoyant lui donnait mal à la tête, et il sentait la nausée le gagner peu à peu. Avec une détermination farouche, il s'employa à l'empêcher d'aller plus loin. Il n'avait aucune envie de s'étouffer à mort. Les bronches pleines de vomi, tandis que Annie se disputait avec un officiel âgé de la ville qui faisait rectifier sa coupe de cheveux chaque semaine chez le coiffeur du coin et portait probablement des caoutchoucs par-dessus ses riches lieux durant l'hiver. Une désagréable sueur froide lui coulait du front quand ils firent leur réapparition. C'était maintenant Annie qui tenait le papier. Elle suivait M. Rancho Grande, agitant un doigt dans son dos, les bulles vides de bande dessinée se succédant hors de sa bouche. Monsieur Rancho Grande évitait soigneusement de se tourner pour la regarder. Il gardait une expression à la neutralité étudiée. Seules ses lèvres, pincées au point de se réduire à un simple trait, trahissaient quelque chose de ses émotions intérieures. De la colère? Peut-être. Du dégoût? Oui. C'était sans doute plus près de la vérité. Vous vous dites qu'elle est cinglée. Vous et les copains avec lesquels vous jouez au poker. Autrement dit, la petite bande de notables qui contrôle ce patelin. Vous avez probablement tiré au sort pour savoir lequel d'entre vous se taperait cette corvée. Personne n'aime apporter de mauvaises nouvelles à une cinglée. Mais, cher monsieur Rancho Grande, si vous saviez à quel point celle-ci est cinglée, je crois que vous ne lui tourneriez pas le dos avec autant de calme. L'homme remonta dans la belle air. Il referma la portière. Annie se tenait à côté du véhicule, agitant toujours le doigt devant la vitre remontée. Paul distingua quelques paroles. « Puisque vous croyez si malin ?» La Chevrolet partit lentement en marche arrière dans l'allée. Monsieur Rancho Grande évitait ostensiblement de regarder Annie, qui lui montrait les dents. « Plus fort encore, vous prenez donc pour un caïd ?» Soudain, elle donna un coup de pied dans le pare-choc avant de la Bel Air de Monsieur Rancho Grande, assez fort pour faire tomber un paquet de neige sale collé sous l'aile. Le vieil homme, qui regardait par-dessus son épaule pour faire sa marche arrière, tourna brusquement la tête vers elle, ayant perdu l'expression de neutralité qu'il avait réussi à conserver pendant toute la durée de sa visite. « Eh bien, moi, je vais vous dire quelque chose, espèce de sale oiseau. Même les gros caïds doivent se déculotter pour aller aux toilettes. Et qu'est-ce que vous pensez de ça ? Quoi qu'il en pensât, M. Rancho Grande se garda bien de donner à Annie Wilkes la satisfaction de le lui montrer. L'expression de neutralité retomba sur sa figure aussi sèchement que la visière d'une armure. Puis, il disparut du champ de vision de Paul. Elle resta quelques instants où elle se trouvait, poing sur les hanches, puis revint à grands pas vers la maison. Il entendit la porte de la cuisine s'ouvrir, puis une détonation lorsqu'elle la referma. « Eh bien, il est reparti, » se dit Paul. « Monsieur Rancho Grande est reparti, et je suis toujours là. Oh oui, et bien là. » Mais cette fois-ci, elle ne passa pas sa colère sur lui. Elle vint dans sa chambre. Elle n'avait pas enlevé son parka, dont la fermeture à glissière était simplement ouverte. Elle se mit à faire les 100 pas, nerveusement, sans même le regarder. Elle tenait toujours le morceau de papier à la main, qu'elle agitait de temps en temps sous son propre nez, comme pour se punir elle-même. 10% d'augmentation des impôts locaux. Voilà ce qu'il a dit. Nantissement, avocat, paiement trimestriel. Il a dit « Défaut de paiement, retard, biscornouille, biscornouille de biscornouille !» Il poussait des grognements qu'étouffait le chiffon, mais elle ne tourna même pas la tête. Elle était seule dans la pièce. Elle allait et venait de plus en plus vite, fendant l'air de son corps compact. Il se disait qu'elle allait réduire le papier en confetti, mais il semblait qu'elle n'osait pas le faire. « 506 $ !» s'écria-t-elle, brandissant cette fois le papier sous le nez de Paul. Elle arracha d'un air absent le chiffon de sa bouche et le jeta sur le sol. Il laissa tomber la tête sur le côté, hoquetant comme s'il était sur le point de vomir. Il avait l'impression que ses bras se détachaient peu à peu des épaules. « 506 $ et 17 cents !» Ils savent pourtant que je ne veux voir personne ici. Je leur ai dit non et regardez, regardez !» Il eut un autre hoquet et émit un bruit de rot désespéré. « Si vous vomissez, vous resterez dedans, j'en ai peur. » On dirait que j'ai une autre casserole sur le feu. Il a parlé d'un nantissement sur la maison. Qu'est-ce que c'est que ce truc encore ? « Les menottes, » coassa-t-il. « Oui, oui, » fit-elle avec impatience. « Par moments, vous êtes un vrai bébé, vous savez. » Elle sortit la clé de la pochette de sa chemise et le repoussa plus loin sur la gauche, lui enfonçant le nez dans les draps. Il cria, mais elle ignora ses plaintes. Il eut un cliquetis, un grincement, et il se retrouva les mains libres. Il s'assit, la respiration haletante, puis se laissa lentement glisser contre les oreillers. Prenant bien garde à pousser les jambes droites devant lui ce faisant. Il vit deux sillons pâles sur ses poignets, qui se mirent à rougir peu à peu sous ses yeux. L'air toujours aussi absent, Annie glissa les menottes dans sa poche, comme si ces méthodes de discipline policière étaient des choses aussi courantes dans les maisons honnêtes que la présence de Kleenex ou de porte-manteau. « Qu'est-ce qu'un nantissement ? » reprit-elle. « Est-ce que ça veut dire que ma maison leur appartient ? C'est bien cela ?»« Non, » répondit-il. « Ça signifie que vous... » Il s'éclaircit la gorge et eut droit à une autre bouffée de l'odeur immonde du chiffon. Sa poitrine se souleva et il hoqueta de nouveau. Elle n'y fit pas attention. Se contentant de le regarder avec une expression d'impatience, elle attendait qu'il pût parler. « Juste que vous ne pouvez pas la vendre. Juste ? Juste. Vous avez de drôles d'idées sur ce qui est juste, Monsieur Paul Sheldon. Mais je suppose que les ennuis d'une pauvre veuve comme moi ne doivent pas paraître bien importants aux yeux d'un monsieur je sais tout comme vous. Bien au contraire. Je pense que vos ennuis sont aussi les miens, Annie. Je voulais simplement dire qu'un nantissement n'est pas bien grave comparé à ce qu'il pourrait faire si vous aviez des arrérages importants. Est-ce le cas ? Des arrérages. Cela veut dire que je suis dans le rouge, n'est-ce pas ? Dans le rouge, en retard, oui. Je ne suis pas un clodo irlandais qui fait les poubelles, moi. Il vit apparaître l'éclat de ses dents, comme sa lèvre supérieure se soulevait. « Je paie mes notes. Simplement, cette fois, j'ai simplement... » Vous avez oublié, hein? Vous avez oublié, tout comme vous avez oublié de changer le mois de février sur le foutu calendrier. Oublié d'effectuer son règlement trimestriel d'impôt locaux est fichtrement plus grave que d'oublier de tourner la page du calendrier. Et vous êtes dans tous vos états parce que c'est la première fois que vous oubliez quelque chose d'aussi important. Le fait est que vous allez de plus en plus mal, Annie. Chaque jour de plus en plus mal. Les psychotiques peuvent s'en sortir tant bien que mal, lâchés dans le monde. Et parfois, comme je crois que vous le savez bien, ils se tirent même de très sales affaires. Mais il arrive un moment où le contrôle de sa psychose devient de plus en plus difficile. Vous vous rapprochez chaque jour un peu plus de ce moment. Et quelque chose en vous le sait. « Je n'ai simplement pas eu le temps de m'en occuper, » admit Annie l'air boudeur. « Avec vous à la maison, j'ai été plus occupé qu'un poseur de papier peint manchot. » Une idée lui vint à l'esprit, une idée vraiment très subtile. Il avait l'impression de pouvoir en retirer un nombre incalculable de bons points. « Je sais bien, » fit-il avec le ton de la sincérité. « Je vous dois la vie. Et depuis, je ne vous ai causé que des embêtements. Je dois avoir environ 400 $ dans mon portefeuille. Je vous les offre volontiers pour payer ces arrérages. » « Oh, Paul !» Elle le regardait, l'air à la fois ravi et honteuse. « Jamais je ne pourrai prendre votre argent. » « Ce n'est pas le mien. » Il lui sourit de son sourire de charme numéro un. « Vous voyez bien qu'on vous aime, ma mignonne. » En lui-même, il pensa. « Ce que je veux, Annie, c'est qu'il vous prenne une de vos absences au moment où j'aurai un couteau sous la main. Je suis sûr que j'ai assez de liberté de mouvement pour en servir. » Et vous vous retrouverez à retirer en enfer avant même de savoir que vous êtes crevé. Il est à vous. Disons qu'il s'agit d'un acompte, si vous préférez. Il se tut puis ajouta, prenant un risque calculé. Si vous vous imaginez que je ne sais pas que sans vous je serais mort, c'est que vous êtes folle. Paul. « Je ne sais pas. Je suis sérieux. » Il laissa son sourire se transformer en ce qu'il espérait être une expression de sincérité victorieuse, pourvu, nom de Dieu, qu'elle le soit. « Vous avez fait plus que me sauver la vie, figurez-vous. Vous en avez sauvé une deuxième. Parce que sans vous, Misery serait encore dans sa tombe. » Elle le regardait maintenant avec des étoiles dans les yeux, ayant oublié le papier qu'elle tenait à la main. « En plus, vous m'avez montré que je m'étais fourvoyé, trompé de chemin. Rien que pour cela, je vous dois bien davantage que 400 $. Et vous allez me mettre très mal à l'aise si vous les refusez. » « Eh bien, je... Très bien. Merci. C'est moi qui devrais vous remercier. Puis-je voir ce papier ?» Elle le lui tendit sans protester. Il s'agissait d'un simple avertissement pour retard de paiement. Le nantissement n'était qu'une formalité. Il parcourut rapidement le formulaire et le lui rendit. « Avez-vous de l'argent à la banque ?» Elle détourna les yeux. « J'en ai un peu de côté, mais pas à la banque. Les banques ne m'inspirent pas confiance. Ils disent qu'ils ne peuvent effectuer le nantissement avant le 25 mars si les arriérés n'ont pas été payés. Quelle est la date aujourd'hui ? Elle fronça les sourcils en regardant le calendrier. Bonté divine ! Il n'est pas à jour. Elle détacha la feuille et le garçon au traîneau disparut. C'est avec une absurde pointe de regret que Paul le vit s'évanouir. Mars s'ornait d'un torrent de montagnes qui se précipitait en bouillonnant entre les sommets enneigés. Elle étudia le calendrier pendant quelques instants d'un œil de myope, puis déclara « C'est aujourd'hui, le 25 mars. » « Bon Dieu, déjà, songea-t-il. » « Évidemment, c'est pour cela qu'il est venu. » « Pas pour vous dire qu'ils allaient hypothéquer votre maison, Annie, mais qu'ils seraient obligés de le faire si le paiement n'arrivait pas avant la fermeture des bureaux ce soir. Ce type essayait en fait de vous rendre service. » « Mais si vous payez ces 506 dollars avant... »« Et 17 cents. N'oubliez pas les 17 cents, biscornouille. » D'accord. Et 17 cents. Si vous payez avant la fermeture des bureaux cet après-midi, pas de nantissement. Si les gens de la ville ont pour vous les sentiments que vous dites, Annie, ils me haïssent, Paul. Ils sont tous ligués contre moi. Alors les impôts sont un bon moyen pour se débarrasser de vous. Commencez à brandir la menace d'un nantissement à quelqu'un qui est en retard d'un trimestre pour ses impôts locaux. C'est lancer le bouchon un peu loin. Ça sent mauvais, très mauvais même. Il suffit que vous sautiez deux trimestres pour qu'ils essaient de vous enlever votre maison. En la vendant aux enchères. Je sais que ça paraît absurde, mais je crois que légalement, ils pourraient le faire. Elle éclata de rire. Un rire dur comme un aboiement. Qu'il s'y frotte un peu. J'en transformerai quelques-uns en passoires avant. Je vous le dis, moi. Oui, monsieur. J'en ferai des passoires. En fin de compte, ce sont eux qui vous transformeraient en passoires, répondit-il doucement. Mais là n'est pas la question. Et où est-elle alors ? Je suis bien sûr, Annie, qu'on trouve à Sidewinder des gens qui ont... 2 ou 3 ans de retard dans le paiement de leurs impôts locaux. Personne n'a mis pour autant leur maison aux enchères ou envoyé leurs meubles à la salle des ventes municipales. La plupart du temps, le pire qui leur arrive est de se voir couper l'eau. Tenez, les Reutemann, par exemple. Il lui lança un regard rusé. Croyez-vous qu'ils paient leurs impôts à temps ? C'est fumier ! S'écria-t-elle. Ça m'étonnerait. À mon avis, ce sont eux qui ont machiné toute l'affaire. De fait, l'idée lui paraissait plausible. « Pas question d'y aller, » éructa-t-elle. « Je ne bougerai pas d'ici, je leur crache dessus. Je resterai ici et je leur cracherai dans l'œil. » « Avez-vous les 106 dollars qui permettraient de compléter les 400 de mon portefeuille ?»« Oui. » Elle commençait à paraître un peu soulagée. « Parfait. Alors je vous suggère de payer cette saleté d'arriérage dès aujourd'hui. Et pendant que vous serez au large, je verrai ce que je pourrai faire pour ces fichues marques sur l'encadrement de la porte. Et cela terminé, je crois que je chercherai comment foutre le camp d'ici, Annie. Je commence à me fatiguer de votre hospitalité. » Il réussit à sourire. Quant aux 17 cents, ajouta-t-il, je pense qu'on doit pouvoir les trouver dans la table de nuit. Annie Wilkes respectait un certain nombre de règles intérieures. À sa manière, elle était étrangement collémontée. Elle l'avait contraint à boire l'eau savonneuse d'un seau. Elle avait attendu qu'il fût au comble de la souffrance pour lui donner ses médicaments. Elle l'avait obligé à brûler lui-même le seul exemplaire existant de son dernier roman. Elle l'avait enchaîné. Elle l'avait bâillonné avec un chiffon à poussière répugnant. Mais il n'était pas question qu'elle prît elle-même l'argent dans son portefeuille. Elle lui apporta donc le vieux Lord Buxton de cuir, tout éraflé, qu'il traînait depuis le collège, et le lui plaça dans les mains. Tous ses papiers d'identité avaient néanmoins disparu. Là-dessus, elle éprouvait moins de scrupules. Il n'y fit aucune allusion. Cela lui semblait plus sage. Ses papiers n'y étaient pas, mais en revanche, l'argent s'y trouvait. Surtout des billets de 50, tout neufs, et encore craquants. Avec une précision à la fois surprenante et quelque peu inquiétante, il se vit venir garer la Camaro à la caisse drive-in de la banque de Buller la veille du jour où il avait achevé Fast Cars et glisser dans le plateau mobile le chèque de $450 qu'il avait rédigé et endossé pour l'encaisser. Il lui semblait vaguement se rappeler que les employés, derrière la vitre, parlaient de vacances. L'homme qu'il était alors, libre, en bonne santé, en pleine forme, n'avait pas apprécié ce jour-là tout ce que ses gestes simples comportaient d'agrément. L'homme qu'il était alors avait lorgné la caissière d'un œil pétillant et intéressé. C'était une grande blonde habillée d'une robe mauve qui soulignait sensuellement ses formes. Et elle lui avait rendu son coup d'œil. Que penserait-elle, se demanda-t-il, de ce même homme tel qu'il se présentait maintenant, plus léger de 20 kilos et plus vieux de 10 ans, avec ses deux jambes en forme de tire-bouchon. Paul ? Il leva les yeux vers Annie, tenant l'argent d'une main. En tout, il y avait $420. Oui ? Elle le regardait avec cette déconcertante expression d'amour maternel et de tendresse, déconcertante à cause des ténèbres opaques et compactes sur lesquelles elle reposait. « Vous pleurez, Paul ?» De sa main libre, il s'essuya la joue. Eh oui, elle était humide. Il sourit et lui tendit l'argent. « Ce n'est rien. Vous étiez en train de songer combien vous aviez été bonne pour moi. Oh, je suppose que beaucoup de gens ne comprendraient pas. Mais je crois savoir. » Le regard mouillé, elle se baissa sur lui et vint effleurer délicatement ses lèvres. L'odeur de son haleine lui parvint. Une odeur qui montait des poches sombres et pleines de fiel à l'intérieur de son corps. Une odeur qui rappelait celle du poisson crevé. C'était 1000 fois pire que l'odeur du chiffon à poussière et lui rappelait l'air fétide. « Respirez, bon Dieu, respirez !» qu'elle avait forcé dans sa gorge, comme un vent venu des enfers. Son estomac se noua, mais... il lui sourit. Je vous aime, très cher, dit-elle. Pouvez-vous me mettre dans le fauteuil avant de partir? Je voudrais écrire. Bien sûr. Elle le serra dans ses bras. Bien sûr, très cher.